On accueille Karine maintenant au 3921. Bonsoir Karine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Karine?
Ben, je vais très bien, merci beaucoup.
Bon, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle je suis en Aveyron.
Oui.
En Occitanie, j'ai 46 ans.
Très bien. Je vous écoute.
Alors moi, ce soir, je souhaitais partager sur un sujet qui a déjà été abordé et qui fait en ce moment couler pas mal d'encre, qui est l'hypersensibilité. Je voulais rebondir au témoignage de Paul en décembre qui m'a énormément touchée. Et j'ai été vraiment navrée, en fait, qu'il vive son hypersensibilité, en fait, avec autant de souffrance. Hein, parce que moi, personnellement, mon hypersensibilité, je la vis plutôt comme une force. Hein, parce que c'est un trait de caractère, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Et en fait, moi, c'est le sel à ma vie. C'est ce qui colore mes journées. Je n'imagine pas mes journées sans mon hypersensibilité.
Oui.
Je suis persuadée que ça enlèverait en fait des saveurs.
Très bien. Alors vous allez surtout, je partage vraiment et en vous enviant aussi quelque part de pouvoir vous exécuter comme ça, mais vous allez surtout nous raconter comment vous êtes arrivé à profiter et à rendre cette hypersensibilité comme un atout dans votre vie. Comment vous avez fait, dites-moi.
Alors, comment j'ai fait? C'est un long parcours. Peut-être qu'il faut que je démarre au départ, c'est ça?
Exactement, c'est mieux.
Ouais. Alors, en fait, moi, mon hypersensibilité, c'est un système de survie, c'est une stratégie de survie, en fait, qui s'est mise en place, puisque je vivais dans un chaos relationnel avec un père violent quand il était alcoolisé et une mère perverse narcissique. Donc, quand mon père, en fait, montait en tension, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'active absolument tous mes sens, mais absolument tous mes sens. La vue, l'ouïe, le kinesthésique. Hein. Et c'est comme ça, en fait, que je me maintenais en sécurité, parce que je pouvais repérer ses yeux qui devenaient noirs, la coloration de la peau qui changeait, les contractions de la mâchoire et également toute la tension dans son corps. Donc, quand je voyais, en fait, qu'il se mettait en tension, moi, j'avais une tendance, c'était déguerpir. Face au lion, moi, j'étais la gazelle, hein, donc je cherchais pas à aller au combat. Donc, en fait, je cherchais à fuir. Donc, c'est ce qui me permettait quand même de rester quelque peu en sécurité, parce que soit je cherchais une voie de sortie, soit j'allais éventuellement, quand j'étais petite, appeler la police pour prévenir la police. Donc, c'est vraiment l'hypersensibilité. Initialement, je dirais qu'elle s'est développée par rapport à un contexte environnemental et éducatif, parce que petite, fallait aussi que je sois très à l'écoute de ma mère, hein. Donc, que je prenne soin de ma mère. Donc, je pense que naturellement, j'ai développé aussi des traits de l'hypersensible que sont la compassion et la bienveillance.
D'accord.
Et puis, pour en faire un atout, il a fallu quand même un long cheminement de développement personnel, de travail sur soi, puisque initialement, c'était pas nécessairement un atout. Quand j'étais petite, à la maternelle, je me souviendrai toujours, la maîtresse me dit « t'es rouge comme une tomate ». J'ai 4-5 ans. Rouge comme une tomate, c'est juste une observation, une comparaison. Et moi, à ce moment-là, je l'ai vécu presque comme l'insulte du siècle. Alors que c'était pas du tout une insulte, c'était juste une observation. Mais j'ai beaucoup pleuré. Donc, quand elle a vu l'état dans lequel je me suis mis, elle a fait un tour de table, en fait, avec tous mes camarades pour me montrer, me démontrer qu'en fait, c'était juste une image. Et en fait, je voyais les autres, mais qui rigolaient. Et moi, ça me faisait toujours pas rire. C'était un crève-le-cœur, en fait, qu'elles me le redisent. Tout simplement. Donc, ça a impacté pendant des années, bien entendu, hein, vraiment les critiques qui n'étaient pas constructives. Hein. On est OK nécessairement. Oui. En fait, c'était mes...
Vous preniez tout au premier degré et tout pour vous.
Ah, mais ça me heurtait. Oui. Ça m'écorchait. Alors qu'aujourd'hui, je suis capable de... voilà, je sais pas, je connais pas, il n'y a aucun souci avec ça, on peut me faire une réflexion. Je suis pas du tout susceptible, hein. J'accepte complètement, mais je pense que c'est tout un parcours de thérapie, que ce soit de l'EMDR, mais également la méditation qui m'a énormément aidée. Pour moi, la méditation, c'est un cadeau dans ma vie parce qu'elle aide et je pense qu'elle peut aider beaucoup d'hypersensibles justement à réguler ce trop-plein d'émotions, ce foisonnement. Par exemple, je suis plutôt stable émotionnellement, mais par exemple, quand je vais dans un supermarché, je ressens en fait, je capte les humeurs, donc le stress, la tension, mais aussi les joies des uns et des autres. Et en fait, c'est comme si on essayait en fait de mettre plusieurs destinations dans un GPS et je me sens extrêmement désorientée dans ces moments-là. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est sortir, respirer, inspirer l'air et vraiment profiter de la nature.
C'est super. Les autres, comment ça se passe avec les autres? Parce que cette hypersensibilité, en fait, elle a dû évoluer. Bon, à force que vous la mettiez à bon escient comme ça, mais avec les autres, parce que les réflexions, les regards, les jugements, ils sont toujours là. Comment vous avez fait avec ça? Comment vous avez composé?
Alors, par l'accueil de soi, je pense que plus on accueille ses vulnérabilités, plus on est présent à soi, moins de choses nous blessent, en fait. Mmh. Parce qu'on n'est plus en attente à l'égard des autres. Moi, je pense que, petite, j'étais en attente de l'amour de ma mère que je ne recevais pas.
Oui.
Donc, comme je ne le recevais pas, je pense que j'étais en quête de recevoir cette reconnaissance chez l'autre. Mais à partir du moment où on lâche ça, on accepte d'être soi. Et soi, c'est avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses et ses vulnérabilités. Mais je reste quand même, malgré le fait d'avoir beaucoup travaillé sur moi, il y a quand même des choses encore qui me heurtent. Par exemple, quand je lis sur Internet, pas spécialement sur moi, mais quand je vois des flots de critiques sur les autres,
oui.
ça me touche, l'injustice, la violence. C'est vraiment quelque chose qui me blesse encore, même pour l'autre. Même quand ça ne me touche pas moi, je peux être extrêmement touchée. Par exemple, je ne rentre pas du tout dans le débat Covid hein, ce soir, on est d'accord, mais quand je vois le clivage qui se produit, je suis navrée parce que je me dis que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés, on est absolument dans la même intention positive, se maintenir en santé. Et malgré tout, eh ben, on va rentrer dans des systèmes de survie et de combat, en fait.
Oui. Je vous écoute, hein, Karine.
Oui, pardon.
Non, mais d'un seul coup, en fait, à chaque fois, c'est comme si on marquait un silence pour que je commente. Or, je n'ai... Voilà, vous savez, je ne suis pas là pour qu'on m'écoute, mais je suis là pour vous écouter. Je suis surtout là pour faire en sorte que vous dérouliez et surtout que celles et ceux qui écoutent la Libre Antenne écoutent. Je ne suis pas là pour commenter chacune de vos phrases, vous voyez. Donc,
ah oui, mais je suis plus habituée à écouter
et oui.
Au final qu'à
et
parler
oui.
De
mais
moi.
Ce soir, c'est vous qui nous parlez de vous. Donc, et alors, justement, ça se traduit comment dans vos relations de tous les jours? Je suppose qu'il y a eu, il y a eu quand même un progrès certain et que lorsqu'on s'accepte globalement, hein, avec tout ce qu'on peut avoir comme qualité, mais aussi comme faiblesse, comme faille, ça solidifie quand même. Vous avez remarqué qu'il y avait un bénéfice au niveau de votre entourage qui s'est sans doute enrichi?
Mais bien sûr, et puis je pense qu'on apprend à choisir aussi notre entourage. Notre entourage diffère
oui.
Par rapport à ça. Donc c'est vrai que moi, je me sens plus connectée, bien entendu, dans le partage, dans la sincérité, l'authenticité avec mes amis. Donc par rapport à ça, je privilégie plutôt ce type de relation. Mais je suis très sociable, mais à côté, je suis également très solitaire. Hein. Mais je pense que c'est aussi un trait hein, chez les hypersensibles. J'ai pas de souci en fait à rester seule. Donc bien entendu, mes relations ont beaucoup évolué ces dernières années et je suis plutôt en quête de connexion en fait avec l'autre. Moi, le blabla en fait, il m'intéresse pas trop. parler de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, comme tout le monde, je suis capable de le faire, hein, dans un train, dans un arrêt de bus, etc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Moi, je suis plus en recherche vraiment de pouvoir échanger dans l'être, en fait, véritable, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Et c'est pas toujours évident dans notre société, parce que notre société, elle est un peu hypoactivée. Là où l'hypersensible, il est hyperactivé émotionnellement, notre société, elle est un peu hypoactivée. Donc, par moment, c'est pas simple de pouvoir se dire. Hein. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix aussi de l'écriture, parce que c'est là où je pouvais me dire plus facilement. Parce que j'ai cette facilité à me centrer sur l'autre, à l'écouter. Mais pendant des années, je ne me disais pas. Je pouvais parler comme beaucoup de personnes, mais je ne me disais pas. Je ne parlais pas mes besoins, je ne parlais pas mes émotions. Oui. Et c'est l'écriture qui m'a beaucoup aidée, en fait.
Vous faites quoi comme métier? Parce que vous m'avez dit, c'est, d'habitude, j'écoute. Que faites-vous dans la vie?
Et je suis psychologue et psychothérapeute.
Ah oui, d'accord. Je me disais bien quand même que ce langage, quand même très... il n'est pas du tout psy, hein, votre langage. En tout cas, il pourrait être taxé de psy, mais il y a tellement de manières d'expliquer justement comment on peut se recentrer, comment on peut se découvrir. Mais justement, je me demandais, alors justement, si vous êtes psy, ça doit être génial de pouvoir faire ce chemin avec celles et ceux qui viennent vous voir et qui ont sans doute des failles, des blessures à cicatriser, des progrès à faire quant à la perception d'eux-mêmes et à la perception du monde qui les entoure. Donc vous devez être devenue importante pour tout un tas de gens, je suis sûr.
Moi, je pense que mon hypersensibilité, non seulement c'est un atout, mais c'est un cadeau dans mon métier. Parce que c'est ce qui me permet justement de capter assez rapidement, dès que la personne rentre, comment elle se sent. Par exemple, quelqu'un, si je demande comment ça va aujourd'hui, comment vous sentez-vous aujourd'hui, et qu'elle me dit « ouais, ça va ». Ben, soit t'écoutes « ça va » et tu passes à autre chose, soit t'entends au-delà du « ça va ». Et au-delà du « ça va », tu vas entendre la lassitude, le découragement, ou que c'est un tout petit « ça va » aujourd'hui qui va permettre, en fait, d'ouvrir vraiment un sujet sur la souffrance, en fait, actuelle, sur la souffrance du jour. Ça permet vraiment d'être véritablement connecté à l'autre, hein, et de comprendre sans juger, au final, d'être vraiment dans un dialogue de cœur à cœur. Je pense que... Alors après, ça a bien entendu le revers de la médaille. Je suis très vigilante parce que je peux très vite être contaminée. Justement, donc je vais parler un peu psy par les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre l'émotion que vit l'autre. Mais par moment, c'est aussi je peux être ce buveur-là, je fais un scanner monté sur pattes, hein, donc il faut que je reste vigilante et très présente, et à l'autre, mais aussi à moi, en fin de séance ou en fin de journée, à ce que j'ai pu en fait capter et prendre en fait de l'autre, de sa souffrance.
Donc, oui, c'est ce pourquoi je pense que, bon, comme beaucoup de psys, hein, d'ailleurs, vous êtes devenu, pour pas mal de gens qui viennent vous voir, ce buvard, non seulement ce buvard, mais je pense que vous devez quand même transmettre toute votre expérience, parce que je pense vraiment que, bien évidemment, il y a tout un tas de techniques liées à la psychologie et à la manière de l'exercer, mais je suis aussi intimement persuadé que l'expérience personnelle, la perception de soi-même, comme vous l'expliquez ce soir, la compréhension ensuite de soi-même, et puis les épreuves que la vie nous impose, que les autres nous imposent, que nous imposons aussi, parce que vous l'avez signalé, lorsqu'on est hypersensible, on peut développer une timidité maladive, un jugement qu'on a, ce fameux syndrome de l'imposteur qui est plus ou moins développée chez les uns et chez les autres. Mais n'empêche que l'expérience personnelle mise au service des autres doit voilà, être un atout dans votre manière de, d'écouter et de parler à celles et ceux qui viennent vous voir.
C'est ce que je pense. L'espère.
C'est ce que je pense,
je le
en
souhaite,
tout cas.
Je pense aussi. Je pense aussi, après, c'est surtout par les retours des patients et je préférerais que ce soit eux qui parlent à ma place.
Marlène, pardonnez-moi de vous interrompre, mais Marlène nous demande ce que veut dire hypoactivé.
Hypoactivé, ben en fait, c'est-à-dire que moi, je suis d'une génération à 46 ans. Nos parents ne nous ont pas éduqués, en fait, à se connecter à nos émotions. La plupart n'étaient pas spécialement à l'écoute de ce qu'on vivait. Hypoactivé, c'est quand en fait on est peu connecté en fait à ses émotions, peu démonstratif dans ses émotions. Mmh. Comparé en fait à l'hypersensible qui est hyperactivé. Moi par exemple, comme je l'écrivais, je dis je m'enthousiasme de la même façon que je me désole, de la même façon que je m'irrite. Mes enthousiasmes sont très forts et j'ai pas besoin de grand chose pour m'enthousiasmer. Moi je m'enthousiasme au quotidien dans la simplicité.
Oui. Alors voilà. À ce propos, je voudrais vous parler de quelque chose qui va vraiment dans le sens de ce que vous venez de dire, que vous vous enthousiasmez pour des choses qui ont pu vous paraître ou pas importantes ou futiles dans le passé. Et je vous parle à vous, Karine, mais je vous parle à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Nous grandissons dans cette vie, nous percevons et découvrons des choses de nous-mêmes, comme nous l'explique Karine. Et nous arrivons, en vieillissant, à relativiser tout un tas de choses. Les épreuves de la vie, bien évidemment, quelles qu'elles soient, nous apprennent à relativiser les choses. Et puis après, bien sûr, l'actualité peut nous apprendre aussi à relativiser les choses. Et à ce propos, je voulais vous dire que c'est totalement par hasard, ce soir, que je suis tombé sur l'interview d'Emmanuel Faber, qui est l'ancien PDG de Danone, de la grande entreprise Danone. Et au-delà de l'intelligence de cet homme, il vient d'écrire un livre qui s'appelle Ouvrir une voie. C'est aux éditions, aux éditions Guérin, qui est une maison d'édition de Chamonix, et qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans la montagne, dans voilà, tout ce qui concerne l'alpinisme même, si j'ai bien compris, la montagne, en tout cas le domaine de la montagne et de tout ce qu'elle elle offre, en fait. Le bouquin s'appelle « Ouvrir une voie » et ça m'a vraiment donné envie de le lire ce soir en écoutant Emmanuel Faber en parler. Et justement, comme vous, Karine, il évoquait, après être passé par les rouages du grand du CAC 40, hein, et puis être le patron de plus de 100 000 employés d'une entreprise comme Danone, bien évidemment avec l'argent, le pouvoir, le confort. Il expliquait combien aujourd'hui, alors qu'il n'est plus patron de Danone depuis quelque temps, combien il avait besoin de se rapprocher de milieux. Ça pouvait être aller comme Calais, vous savez, aller voir les migrants, rencontrer les gens dans la rue, aller dans une église, aller à Marseille, dans les quartiers nord, mais que finalement il avait un besoin viscéral de découvrir les visions différentes des autres du monde. En fait, il avait besoin de se nourrir d'autres visions que de la sienne. Et puis, l'alpinisme, il le compare à tout un tas d'engagement dans la vie et il fait des comparaisons, il en parle si bien. Je vous conseille de regarder en replay son passage sur Quotidien ce soir. Vraiment, c'est presque de la poésie, la manière dont il en parle, alors que ça n'est pas du tout l'effet recherché, mais il est vraiment d'une justesse et surtout très, très clair dans ce qu'il raconte. Ça n'est pas du tout pompeux ou compliqué. Mais c'était très intéressant de voir la comparaison qu'il peut faire entre le fait de grimper une montagne, de sortir vers le haut, parce que parfois on ne peut pas faire marche arrière, parce que c'est impossible. Le fait de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un en qui on a confiance, hein, quand on est dans une cordée, ou sur une cordée, je ne sais pas si on dit dans une cordée. Peut-être on va m'aider en régie. Mais en tout cas, c'était très intéressant et ça me fait penser à ce que vous me disiez tout à l'heure, le fait de relativiser tout un tas de choses, de s'apercevoir que finalement on peut vivre très simplement avec peu de choses. Alors peut-être qu'avoir connu vraiment l'argent, le pouvoir, le confort donne une vision particulière à cet homme qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais le fait de partir le matin sans rien, juste avec le nécessaire pour une expédition ou pour gravir une montagne, un mont, c'était vraiment très intéressant. Et je fais un rapport entre ce que j'ai entendu et ce que vous me dites ce soir en termes d'engagement vis-à-vis de vous-même, de tout ce que vous avez dû faire comme effort et comme effort dans la réflexion pour vous faire violence, sûrement parfois pour mieux vous connaître, mieux vous accepter. Voilà, je vous conseille ce livre, je vous rappelle le titre, c'est « Ouvrir une voie », c'est de Emmanuel Faber, et c'est aux éditions Guérin.
Je note.
Notez-le, parce que je pense qu'il vous passionnera, et bien évidemment, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, je pense aussi qu'il vous passionnera.
Mais je suis persuadée que de toute façon, notre métamorphose, elle vient justement de la créativité, quelle qu'elle soit. Chacun va trouver au final sa voie d'expression, sa voie pour se transcender. Ben, alors, lui, c'est l'alpiniste.
D'accord avec vous, mais je pense que cela part d'une prise de conscience.
Ah oui,
on est d'accord. Prise de conscience... elle est attisée souvent par la curiosité. Je dis sur cette antenne, souvent on me pose la question, pourquoi je parle avec les gens depuis si longtemps, pourquoi j'échange, pourquoi ? Parce que, pour ma part, j'ai eu, très jeune, ce sentiment que ma curiosité me porterait à justement connaître l'autre, connaître ses intentions, ses opinions, ses sentiments, et donc sa vision du monde, et une vision qui ne nous plaît pas obligatoirement, mais en s'y confrontant, on arrive à se faire la sienne, vraiment. Et au final, cela part quand même d'une prise de conscience qu'on existe, mais qu'on n'existe jamais seul. Et que pour se connaître, il faut justement prendre conscience qu'on a un chemin à prendre et comme une montagne à gravir où chacun choisira son chemin et ses épreuves, mais en tout cas, il est important de ne pas s'arrêter. En fait, on croise tout un tas de cons, en fait, qui sont persuadés de connaître tout sur tout et d'avoir la science infuse. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis, Karine, mais moi, parfois, j'étouffe au bout d'une journée, mais j'accepte. Et à côté de ça, je fais des rencontres extraordinaires de gens qui justement ont réalisé combien il était important de toujours aller de l'avant et de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. Voilà.
Oh mais merci pour ce partage et je me reconnais complètement là-dedans. À 14-15 ans, j'ai des amis, vous savez comment ils m'avaient surnommé, Docteur in Love. Docteur in Love. parce qu'en fait, je les écoutais beaucoup et que je leur avais donné des conseils judicieux. Et donc, à partir de là, ils m'avaient donné ce surnom. Donc, peut-être que j'avais déjà une mission qui était toute tracée. Et oui, alors moi, je crois qu'en plus, au-delà de ma posture de caregiver, c'est-à-dire l'enfant qui prend soin de sa mère, au-delà de tout ça, je pense que j'avais besoin d'aller complètement à l'encontre de tout ce que j'avais vécu, de me révolter par rapport à ce que j'avais vécu, de surtout pas répéter, et au contraire de faire le bien, de faire le bien et de pouvoir donner des choses positives à l'autre et de pouvoir vraiment, comment dire, à mon petit niveau, cheminer vers plus de paix. Parce que je crois que c'est ça, en fait. C'est vraiment cheminer vers plus de paix et avec l'autre aussi. Et je suis tout à fait d'accord, on ne chemine pas seul, on chemine avec les autres.
Complètement, et on se construit à travers l'autre. Et souvent, ce qui nous permet de nous remettre en question, c'est souvent l'autre. D'où l'importance d'échanger, d'où l'importance dans les accords Toltec de la parole, hein, de l'utilisation des mots. Et une fois ces mots prononcés, ces idées jetées à l'aide des mots et de la parole, la capacité de réfléchir et justement de ne pas interpréter, de ne pas tout interpréter pour soi, mais partager en fait avec l'autre. L'autre nous donne sa vision du monde. On peut prendre dedans ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'adhérer à tout. Les gens qui essayent de vous imposer leurs idées ne sont pas ceux qui vont vous aider vraiment à vous construire. Je crois que dans l'échange, il y a toujours cette notion d'écoute très importante. Et oui, d'écoute de l'autre. Et voilà.
Mais je le dis toujours, écouter, c'est ni approuver, ni adhérer. Mais par contre, c'est comprendre, tenter de comprendre le monde intérieur et la planète de l'autre, en fait, tout simplement ça. Simplement, en fait, être dans l'intention de mieux comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent et ce qui l'amène à penser ce qu'il pense, en fait, tout simplement. Et je suis tout à fait d'accord. Déjà d'une, moi, je ne suis pas du tout pour la pensée unique, mais oui, imposer quelque chose. Moi, quand quelqu'un me dit « qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?» Mais qui je suis, moi, pour conseiller quelque chose à quelqu'un ? C'est... On est d'accord de petits conseils, hein, on est ok, on parle de conseils de vie, de choix, et je pense que quand la personne est prête, elle fera le choix qui sera bon pour elle.
Alors Karine, on va pas tarder à se quitter. Je sais que vous, Florian me souffle que vous êtes l'auteur d'un livre. On mettra les références de ce livre et la maison d'édition sur notre page Facebook, mais ce livre, comment s'appelle-t-il ?
De tais-toi à tais-toi. Donc, tais-toi, T-A-I-S, à tais-toi, T-E-S. Donc, c'est un... Ou comment renaître des emprises et abus narcissiques.
Très bien.
Donc, c'est un livre qui parle de mon enfance et de ce que j'ai vécu, les emprises que j'ai pu vivre entre mon père et ma mère.
Très bien. OK. Bah, écoutez, je vais aller lire ça. De bons pas. Et j'espère que vous qui nous écoutez, en tout cas vous êtes beaucoup à réagir sur le 739-21, notamment... Il y a un très beau texto qui... voilà, vous touchez beaucoup de gens ce soir, ma chère Karine, en tout cas. Merci, pour votre partage et merci pour ces mots, parce que c'est important. Et vous nous rappelez quand vous voulez, hein. Si un soir vous avez encore envie de partager, vous savez que vous êtes la bienvenue ici, d'accord ?
Oui, alors je ne suis pas des plus loquaces, hein, je crois. Mais...
Pardonnez-moi, mais vous vous en tirez pas mal.
D'accord, moi je suis dans un langage du cœur.
Oui, écoutez, on a parlé 37 minutes et je n'ai pas l'impression d'être le plus bavard, donc vous vous en tirez très bien.
Moi, j'ai pas vu le temps passer, fabuleux.
Eh ben,
merci beaucoup.
Je vous en
merci.
Prie.
Merci, et puis merci aussi pour tous les auditeurs et tout ce que vous faites, parce que, ben, quelque part, vous êtes le psychologue aussi des auditeurs.
Écoutez, on essaye de faire avancer les choses et justement de reproduire tout ce dont vous venez de parler pendant 37 minutes. Tout échange à vous. Je pense un intérêt et le fait d'être entendu et d'être écouté déjà est le début de quelque chose. Donc pourquoi pas dire que c'est une forme de psychologie. Allons-y. Je vous embrasse, Karine.
Merci, moi aussi. Merci beaucoup. Belle soirée.
Vous serez,
à bientôt.